Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant l'évangile du règne de Dieu. Nous arrivons à l'étude numéro 7 et aujourd'hui le thème sera l'annonce du royaume de Dieu. L'évangile n'est pas autre chose qu'une annonciation du royaume de Dieu, c'est-à-dire de la pénétration de Dieu dans l'humanité. Cette pénétration de Dieu qui commence aujourd'hui par l'annonciation de l'évangile, n'est pas encore une chose terminée. Elle prédit simplement l'achèvement. Mais cette nouvelle ère doit déjà commencer chez ceux qui portent l'évangile dans leur cœur et qui savent pertinemment que Dieu justifiera l'annonce de l'évangile par l'apparition véritable du royaume de Dieu, et non seulement en parole, mais en action. L'évangile doit être une annonciation des temps nouveaux. Il faut que nous ayons la preuve déjà aujourd'hui que des péchés peuvent être pardonnés et qu'aujourd'hui déjà des secours de toute espèce viennent aux hommes. Le présent dans les annonciateurs de l'évangile doit représenter ce qui sera dans l'avenir et s'harmoniser avec lui. Les croyants et les compagnons de Jésus-Christ sont ceux qui portent effectivement en eux l'avenir du royaume de Dieu. Oui, c'est sérieux. Donc ce sont ceux qui savent s'en porter garant pour toutes leurs personnes. Ceux qui ne regardent plus ni en arrière, ni de côté, mais qui regardent uniquement en avant, ce sont ceux qui ont toujours au cœur cette certitude. Quand même, nous ne savons pas du tout comment cela doit se faire, eh bien, nous savons une chose. Jésus est le Maître. Jésus est le Maître. Par rapport au but proprement dit de notre vie, nous sommes pauvres. Beaucoup d'hommes ne se préoccupent que de ce qui est à leur portée immédiate. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Dans la Sainte Bible, cela s'appelle être riche. Ces gens sont en réalité aussi de pauvres êtres, mais on les nomme à première vue les riches, bien qu'en fait, ils soient les plus pauvres d'entre les pauvres. Or, ils s'adonnent à toutes les choses possibles et périssables qui sont à la portée de leurs mains, et voici quand Dieu se présente avec sa nourriture divine, ils sont déjà repus. Les autres, eux, sont dits pauvres. Ils ont en vue quelque chose de beaucoup meilleur, de plus haut, et dans leur effort, dans leur aspiration, ils finissent par en conclure que les hommes ne peuvent être aidés que par Dieu seulement. Heureux sont donc ces pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Chers amis, il faut qu'il y ait chaque jour un appel à Dieu. Il y a des chrétiens légers qui ne veulent que planer sur la hauteur, mais ils n'y réussissent qu'un temps. L'homme qui est religieux sans être sauvé peut s'exalter même par la lecture de la Sainte Bible et avec des pratiques religieuses, mais cela ne dure souvent pas. Un christianisme trop gai n'est pas à sa place dans un monde où des millions de nos frères et de nos sœurs vivent et meurent de misère dans le meurtre et dans l'assassinat, sans compter toutes les filles qu'on viole de nos jours dans les guerres qui sont en cours. La fausseté, la cruauté ou l'avarisme et l'envie, tout cela corrompt toutes choses où les peuples s'entretuent et se ruinent. Et c'est alors que notre cri doit être puissant. Nous devons être de pauvres gens qui ont soif de la venue de Dieu et de l'apparition du Sauveur et qui doivent avoir faim du Saint-Esprit qui doit nous enseigner et nous guider. Le Sauveur lui-même s'est fait le compagnon de ces pauvres, lui pourtant comblé des dons de Dieu. Il a été le plus pauvre d'entre les pauvres jusqu'à pousser ce cri « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est dans ce cri que se trouve notre chemin vers Dieu et le chemin de Dieu vers nous. Car tant que nous avons encore des attaches capables de nous satisfaire selon les circonstances, la force du royaume des cieux qui est nécessaire pour soumettre le monde ne vient pas. Rien qu'un petit morceau du royaume du ciel, cela ne suffit pas. Seulement une providence générale au-dessus des hommes ne l'emporte pas. Il faut donc que le gouvernement immédiat de Dieu soit amené tout entier par les pauvres. Une parcelle du christianisme ne suffit pas, non? Trop d'à côté ont pris de l'importance. Il y a tellement d'à côté aujourd'hui avec tous les gadgets électroniques qui prennent une grande importance, trop d'importance. Un enseignement dogmatique de Dieu peut diriger pendant un certain temps, mais ce n'est pas Dieu. Une institution religieuse peut dominer, mais ce n'est pas Jésus. La science peut grandir et donner un soi-disant esprit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Pour surmonter le monde, il faut le cri qui dit « Dieu seulement ». Beaucoup de gens aujourd'hui veulent instaurer un ordre tout autre dans la société. Ils s'y emploient corps et âme et ça donne au plus grand espoir. Mais quand même toutes les conditions actuelles seraient écartées, qu'adviendra-t-il? Est-ce que d'autres lois vont nous aider? Non, notre progrès doit être Dieu toujours plus et de plus en plus une direction qui vienne d'en haut, jusque dans nos cœurs. Nous devons donc, pour ainsi dire, faire concurrence aux hommes de progrès du monde et prendre davantage sur eux, plutôt l'avantage sur eux, et cela de telle façon qu'à la fin, le cri du monde impie serve aussi la cause de Dieu. Pour surmonter l'orgueil et la haine des Juifs, Dieu s'est servi de l'apôtre Paul. Eh oui, Dieu emploie un homme spécial pour chaque tâche qui est spéciale dans le royaume de Dieu. Un païen ne pouvait pas remplir cette tâche. Un juif authentique, non plus. Un juif orthodoxe, non plus. Il fallait qu'elle échue à un juif brisé. Je dis bien un juif brisé. Non à une urne d'Israël, mais à un vase ébréché. Et c'est dans ce réceptacle qui a été brisé que Dieu a répandu son esprit en l'apôtre Paul. Tout vrai serviteur de Dieu est issu de la misère des hommes. Tous les prophètes sont issus de la misère des hommes et représentent, on peut dire, les malheureux, mais c'est d'une façon toute spéciale, avec force et non pas seulement avec des paroles, que Jésus vient en chair parmi les hommes pour habiter dans cette chair et pousser du fond de la misère le cri « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est pourquoi le renoncement commence pour nous aussi, lorsque nous nous tournons vers les misérables et que nous suivons la voie du Sauveur qui, du sein de l'humanité la plus humble, soupire vers son Dieu afin que sa domination arrive aux âmes les plus basses et leur vienne en aide. C'est donc dans la misère de ceux qui croient en Jésus-Christ que l'on doit s'apercevoir que Jésus vit. L'apôtre Paul sert le Seigneur qui surmonte la mort avec ses liens. Celui qui possède la nouvelle vie spirituelle peut aussi souffrir et mourir. Jésus a autre chose en vue que de rappeler seulement à la vie un corps déjà promis à la tombe. Il vise au jour à venir, oui, au jour idéal, à l'époque idéale. Mais au lieu de croire au Seigneur de ce jour, eh bien les gens veulent seulement être guéris. Ils veulent être bénis avec des choses matérielles et surtout être, on peut dire, en pleine forme pour aller aux Jeux Olympiques, pourquoi pas. Or, si les miracles accomplis par Dieu sur nos corps ne sont point comme des flèches indiquant la venue du royaume de Dieu, ils n'ont aucune valeur. Nous ne devons pas demander à Dieu des secours seulement pour la vie terrestre, car alors, on a en vue que le jour présent et non pas le jour à venir. Je répète parce que c'est important. Nous ne devons pas demander à Dieu des secours seulement pour la vie terrestre, car alors, on a en vue que le jour présent et non pas le jour à venir. Le seul être qui puisse nous rassasier, c'est Jésus, mais il vient comme le puissant, et c'est pour cela que nous devons également accepter son jugement. Qui veut la justice doit aussi accepter le jugement. Jésus-Christ est aujourd'hui déjà le juge des vivants et des morts. Si je vis pour lui, je dois accepter son châtiment éventuel. Mais c'est un châtiment bienfaisant. Cela m'est arrivé plusieurs fois dans la vie, heureusement pour mon bien. Quand Jésus disparaît. Je deviens encore plus pauvre, car c'est alors que mon péché vient au jour. Il est la lumière du monde. Avant son apparition, ce sont les ténèbres. Mais quand il apparaît, alors on voit le mal. Quand nous entrons en contact avec Jésus, le mal apparaît d'abord. Avant, on pouvait se faire des illusions sur bien des choses, mais maintenant plus. Face à face avec ce qui est la vraie vérité, nous devenons pauvres et non pas riches. Le jugement accompagne la parole de Dieu, mais dans ce jugement, il y a de l'amour. Dieu soit loué, que l'impureté sorte. Oui, viens, ô Seigneur Jésus, et fais la lumière, afin qu'aucune impureté ne puisse plus demeurer cachée. Car c'est seulement quand le mal sort, que le secours peut venir. Dans toutes les situations, l'aide peut venir. Jésus ne considère personne d'avance comme perdu. Mais d'abord, il faut que nous soyons affamés, car on ne peut rassasier que les affamés. Aussi réjouissez-vous, vous qui êtes affamés, car vous pouvez maintenant être secourus. Or, celui qui veut être rassasié doit évidemment manger. Il doit ouvrir la bouche et broyer les aliments. Tu dois donc aussi faire un effort pour cela. Il est vrai que tout ici est grâce. C'est aussi du reste une grâce que j'ai une bouche et des dents, mais pourtant il faut que j'ouvre la bouche et que mes dents mordent les choses dures. Si nous n'avons aucune énergie à venir à Dieu, eh bien, en surmontant, par exemple, l'iniquité, il faut de l'énergie. Si nous sommes simplement des lâches, eh bien nous retombons vite, de nouveau, dans le sommeil des injustes. Car voyez-vous, les injustes sont souvent paresseux. Ils s'étendent et dorment sur leurs coussins. Ceux qui cherchent la justice, eux, ne dorment pas tellement. Car jour et nuit, il faut qu'ils se défendent. En eux se meut, il y a un mouvement, une énergie pour le bien. L'énergie, c'est ça, une énergie de la foi. Donc, le Sauveur veut nous avoir à ses côtés en collaborateur énergique, motivé et zélé. Il s'agit donc de travailler si l'on veut être rassasié. C'est là une loi qui régit toute la création. Ayez de l'énergie dans la faim et vous verrez bientôt ce qui est possible aux côtés du Sauveur, car derrière cette énergie se tient le Dieu Tout-Puissant, et par lui et par sa communauté, Jésus veut rassasier le monde. Parfois, Dieu met des gens sur notre route afin d'éviter un malheur, ou aussi pour amener un progrès en nous-mêmes. Il est déjà arrivé que les maîtres ont été mis dans le plus grand embarras parce que leurs serviteurs n'osaient pas se faire entendre. Ces maîtres étaient trop fiers et ne laissaient pas arriver jusqu'à eux la parole dite à propos. Nous devons toujours être attentifs et aucun orgueil humain ne doit nous empêcher d'écouter aussi les petits de ce monde. Un jour, le royaume de Dieu sera achevé par de petites gens, par des gens apparemment de peu d'apparence, ou qu'on tient pour n'avoir pas voix au chapitre. Les puissants et les grands de ce monde viendront seulement après comme un butin dans la main de Dieu, alors que tout sera accompli. Ceux-là ouvriront alors de grands yeux quand l'œuvre aura été achevée par de pauvres petites gens qui ne faisaient aucun cas d'eux-mêmes, mais s'en tenaient, eux, à l'amour de Dieu en Jésus-Christ et à la révélation de Dieu telle qu'elle se manifeste directement dans les cœurs. Même comme chrétien, oui, comme simple chrétien, tu ne peux rien par toi-même, mais c'est Jésus qui agit. Tu dois seulement avoir la foi. Tu dois avoir la foi pour annoncer l'évangile et faire tout ce que tu peux faire avec ce que tu as à ta disposition. Est-ce que tu comprends? Le Sauveur, il veillera, lui. Au reste, tu peux avoir confiance. La communauté de Jésus-Christ, c'est le temple de Dieu sur la terre. Dans ce temple, tout doit être sanctifié. Les hommes et les femmes qui y vivent ne peuvent pas tous être parfaits, car nous ne serons jamais parfaits. Mais ils peuvent garder fidèlement dans leur cœur la vérité de Dieu et le droit de Dieu sur la terre. À défaut de ce temple, le royaume de Dieu ne viendra pas sur terre. Et c'est pourquoi les prophètes et les apôtres font preuve d'un tel zèle pour la pureté de ce temple. Surtout, il ne faut pas prendre place dans ce temple avec un cœur impur. Surtout, il ne faut pas vouloir enlever en secret l'acuité de la volonté de Dieu, c'est-à-dire ce qu'elle a de pénétrant. Le peuple auquel il est réservé de faire triompher la cause de Dieu doit avoir du mordant en lui-même, pour lui-même et contre lui-même. Il doit aimer le monde dans l'amour de Dieu, mais ne pas se laisser influencer par le monde. Les apôtres luttent, ils luttent à la vie et à la mort pour cette pureté du Christ, oui, pour qu'aucune autre direction puisse pénétrer dans le cercle des représentants de Dieu sur terre, afin que sa pointe ne soit pas émoussée. Que pouvons-nous faire avec une communauté de Jésus-Christ qui ne soit pas pure? La communauté de Jésus-Christ ne doit pas se laisser pénétrer par aucune influence étrangère. Tant de choses veulent se faire valoir, même sur le plan spirituel, et pèse sur nous. La science, l'art, l'habileté dans la vie de tous les jours, les usages, les coutumes, enfin tout, veut se faire valoir. Or ces choses ne sont d'ailleurs pas mauvaises en elles-mêmes. Nous ne voulons pas nier l'utilité passagère de ce que sont les hommes sur la terre et de ce qu'ils ont acquis par le travail. Mais dans ces choses, l'esprit qui veut dominer doit être extirpé chez nous. Voyez-vous, ceux qui reconnaissent Jésus pour maître, pour leur sauveur et Seigneur, doivent accepter d'être mis dans une position analogue à celle où le Seigneur a placé ses disciples. Ils doivent pénétrer dans le monde de Dieu, dans le monde de la vérité. Et cette vérité est autre que celle des hommes. Même ce qui est humainement bon n'aboutit pas, cela empoisonne. Et c'est pourquoi les disciples de Jésus doivent tout dépouiller pour pénétrer dans le monde de Dieu. Jésus a donc besoin d'hommes et de femmes qui soient entièrement consacrés à Dieu, entièrement immergés dans la volonté divine. Et pourtant, ces hommes et ces femmes, tout en étant intérieurement complètement libérés du monde, doivent se tenir entièrement, malgré tout, dans le monde. Ils ne doivent pas se séparer du monde, ils doivent, en tant qu'hommes et de femmes de Dieu, pénétrer précisément là où tout est plein de contradictions. L'amour de Dieu embrasse le monde d'une sainte étreinte, et c'est pour cela que le monde doit aller au jugement dans l'étreinte des disciples de Jésus, afin ce qui est faux puisse devenir manifeste. Mais ceux-ci ne doivent pas délaisser le monde, bien au contraire. Ils doivent l'aimer, l'aimer de l'amour de Dieu, de cet amour qui veut que le monde abandonne ses mensonges et meure afin de devenir un monde tout nouveau. L'intérêt qu'un peuple porte au roi et à la patrie en fait son peuple, des conceptions communes sur la Sainte Bible, sur Dieu et le Christ, de communes idées sur cet enseignement ne suffisent pas à faire de nous un peuple de Dieu. Nous ne deviendrons un peuple de Dieu que si nous portons intérêt à Dieu, non seulement à nous-mêmes. Or, nous autres chrétiens, nous n'avons le plus souvent d'intérêt que pour nous et non pas pour Dieu. Nous voulons que Dieu prenne intérêt à nous. Or, Dieu ne cherche pas seulement des hommes et des femmes à qui pardonner leurs péchés pour en faire des bienheureux, mais Dieu recherche pour lui-même, surtout, une troupe solide qui est capable de combattre. De nos jours, il y a dans l'air quelque chose comme la formation d'un peuple de Dieu, mais il se mêle facilement en des temps pareils quelque chose de faux dans cette vérité qui flotte dans l'air. Ou si ceux qui le comprennent doivent s'en tenir d'autant plus entièrement à Dieu afin d'être un peuple fidèle qui est capable de conquérir le monde pour Dieu. Il y a de bien braves chrétiens qui auront très certainement un jour une bonne petite place au ciel, mais il ne leur reste pas un moment de libre pour le travail, pour leur sauveur. Que de désirs de toutes sortes ne nourrissent-ils pas dans leur cœur? On veut être bien portant, on veut devenir riche, être heureux et célèbre, on lutte contre ses propres péchés et on en cherche même le pardon. Mais on n'arrive pas à une claire conception du royaume de Dieu. C'est un amalgame de vie périssable et de vie éternelle. Car un jour, on suit par exemple Dieu, mais une autre fois, on suit uniquement ses propres chemins. Mais si nous voulons être vraiment, vraiment des disciples de Jésus, eh bien notre vie en est l'enjeu. Le mal absolu inspire le dégoût et ainsi nous le rejetons. Mais quand une parcelle de vérité se cache dans quelque chose qui n'est pas droit, cela devient dangereux. Le serpent du jardin d'Éden parle comme s'il venait de Dieu. Un esprit à craindre est surtout celui qui se présente sous l'habit d'un ange de lumière. Les esprits les plus dangereux sont ceux qui ne s'intéressent pas, en fait, aux œuvres de Dieu, mais qui veulent faire leurs propres œuvres. Un pareil esprit devient un séducteur, c'est-à-dire un Satan. Et si je l'écoute, j'appartiens moi-même à Satan. Satan et les démons ne sont rien en réalité, mais ils renaissent toujours et sont engendrés par une force de création continue dont le fond est une masse spirituelle qui, à vrai dire, fait partie de ce même esprit issu originellement de Dieu, mais qui s'est dévoyé depuis longtemps. De cette source peut provenir toute une culture qui apparaît très acceptable, mais c'est précisément par une culture de cette sorte-là que les yeux se ferment à la création véritable de Dieu et que les oreilles se bouchent aux véritables paroles de Dieu. Cette culture fleurit précisément aujourd'hui chez beaucoup d'hommes, si bien que des gens d'esprit noble et droit disent « Je ne puis comprendre Dieu, je ne sais que tu veux dire, je ne sais du reste pas ce que tu veux dire. » Beaucoup sont affamés, il est vrai, de religion. Mais ils n'essayent pas de la comprendre. Aussi n'ont-ils pas la patience. Ils n'ont même plus le temps, avec tous les gadgets électroniques, pour rechercher, en quelque sorte, les spiritualités véritables dans le Saint-Livre, la Sainte Bible. Aussi devons-nous nous demander d'autant plus à Dieu qu'il nous ouvre les yeux et les oreilles afin que nous recevions à nouveau la véritable parole de Dieu, pour que nous apprenions à distinguer le principal du secondaire, et qu'avec cette véritable parole de Dieu, nous apportions quelque chose à tous ceux qui en sont affamés. Il nous faut donc une certaine fierté, non pas la fierté qui méprise autrui, pas du tout, mais un maintien sacré, une réserve sacrée qui fait que l'on reste ce que l'on est et qu'on ne se mêle pas à toutes sortes de choses futiles et souvent basses. Quand nous comprenons ce que Jésus demande de nous, notre cœur se dit souvent « Cela ne se peut pourtant pas, car aucun homme, aucune femme n'est capable de cela. » Certes, nul homme, nulle femme ne fait cela, mais si vous voulez être comme les autres, vous n'arriverez jamais au royaume de Dieu. C'est pourquoi appliquons-nous au royaume de Dieu, même si cela coûte quelques efforts, afin d'être totalement différent des autres hommes. Dès l'origine, un combat a pris naissance au sein de la communauté de Jésus-Christ jusqu'à nos jours. Il n'y a aucune communauté de Jésus-Christ dont les intentions aient été entièrement pures. Ainsi, le combat pour le royaume de Dieu s'est transporté et renfermé au sein de la communauté de Jésus-Christ. Le combat contre le monde, contre, on peut dire, l'erreur et contre les ténèbres, est arrêté et retardé. Et il ne peut être question d'arriver à une véritable victoire, et cela jusqu'à ce que la décision soit intervenue au sein de la communauté de Jésus-Christ. C'est donc là que doit venir la décision. Oui, la décision qui est vraiment le maître. Eh bien, nous le savons, notre maître, c'est Jésus, et non pas le monde. Le combat se déroule en chacun de nous. C'est comme si dans chacun de nous, il y avait deux hommes. L'homme qui aspire à Dieu et celui qui aspire à ce qui est terrestre et temporel. Remercions donc Dieu quand ce combat commence dans un homme, dans une femme, quand il ne peut trouver aucun repos dans son cœur. Heureux l'homme qui a à combattre ainsi. Heureux l'homme en qui le jugement de Dieu s'apesantit dans sa chair, afin que sa chair ne connaisse plus de repos jusqu'à ce que le combat soit mené à bonne fin et que Jésus-Christ ait remporté en lui la victoire. Si Jésus l'a remporté en lui, en elle en particulier, il aura aussi dans sa communauté, et s'il l'a dans sa communauté, il l'aura aussi dans le monde, parmi les peuples. Alors la lumière se lèvera dans le monde visible et dans le monde invisible, sur les morts ainsi que sur les vivants. Il est donc dans l'ordre divin que le suprême combat prenne naissance précisément au sein du peuple de Dieu et que les éléments impurs s'efforcent d'y pénétrer. Ceux-là, oui, ceux-là, doivent alors être repoussés par le petit noyau du peuple qui est resté fidèle. Il ne faut pas s'imaginer que la tranquillité doive régner au sein de la communauté de Jésus-Christ avant que le but soit atteint. Le Sauveur ne force personne. Il ne peut forcer personne. Il faut que le mal se rende de lui-même. Frapper des gens, destituer, jeter dehors tout autre roi le peut, mais le Sauveur ne le fait pas. Judas doit se retirer de lui-même. Je répète, tous les Judas doivent se retirer d'eux-mêmes. Remercions et louons Dieu que le Sauveur n'écarte pas ses obstacles par la violence. Autrement, il ne serait plus un Sauveur pour aucun pécheur. Il est si difficile d'instituer l'unité parmi les hommes, même dans la chrétienté. Le peuple de Jésus-Christ doit être un peuple qui devrait être uni sous un seul roi. Mais il est si rarement possible que les hommes réunis servent Dieu ensemble. Un tout seul servirait bien son Dieu et l'autre seul le servirait aussi. Mais dès qu'ils sont plusieurs, là, ils jettent les yeux l'un sur l'autre et dans l'envie et la jalousie tournent leurs pensées autour d'eux-mêmes et de leurs frères, de leurs sœurs, et ils détournent ainsi le regard de leur maître. Il en est malheureusement de même aussi dans toutes nos diverses églises. Elles s'occupent trop d'elles-mêmes et de leurs différentes controverses. Une fois la division introduite, elle devient toujours plus accentuée. Des coutumes différentes s'établissent. Et finalement, on transforme les coutumes en religion, on se sépare encore plus et l'on oublie le maître commun. Quel poids de jalousie hypocrite alourdit ainsi la vie même de nos institutions chrétiennes. Il faut avoir tant d'égards et faire tant de révérences, ne fût-ce que pour éviter de choquer ici et là. En présence de cet état de choses, c'est un véritable bienfait quand Dieu pousse de nouveau le Sauveur au premier plan, comme étant l'unique souverain. Alors, chacun doit apprendre à dire « Je sers le roi » et à penser de son voisin qu'il sert aussi le roi, même si toi, tu fais partie d'une autre église ou d'une autre communauté chrétienne. Alors toutes les différences qui existent dans nos coutumes religieuses devienne une chose accessoire, car chacun peut conserver ses diverses habitudes. L'un fêtera le sabbat le samedi, l'autre peut-être le dimanche, un autre prendra la Sainte Cène, un autre peut-être pas, un autre dira, si tu n'es pas baptisé par immersion, tu n'es même pas un des nôtres, etc., etc. Mais l'essentiel, c'est que, pourvu que le roi seul, Jésus-Christ, nous tienne à cœur et que nous soyons prêts à le servir. Dieu veut que nous, chrétiens, nous ayons maintenant la paix entre nous, la paix confessionnelle aussi. Ouvrez les grilles qui vous séparent, arrachez les barrières, faites la paix et servez le Dieu unique et le seul Seigneur entre nous. À nulle part dans tout le Nouveau Testament, il est dit autre chose que le salut, c'est absolument la chose la plus importante. Être sauvé. Être sauvé. Le salut. Sans le salut, eh bien, on va louper la porte d'entrée. Donc, tout le reste, je ne dis pas que ce n'est pas important, j'ai pas dit ça, mais ce n'est pas autant important que le salut. Du reste, je crois que le brigand à la croix, qui au dernier moment, au tout dernier moment de sa vie, sur la croix, s'est décidé pour Jésus-Christ. Croyez-vous qu'il a pu prendre la Sainte Cène? Croyez-vous qu'il a pu être baptisé par immersion? Croyez-vous qu'il a pu appliquer tout ce que nous rencontrons dans les Saintes Écritures? Je ne crois pas. Mais est-ce que Jésus l'a repoussé? Est-ce que Jésus lui a dit, eh bien, malheureusement pour toi, c'est trop tard. Tu n'as pas pu faire toutes les autres choses qui sont pourtant recommandées dans les Saintes Écritures. Eh bien, tu es perdu. Non? Non, il lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi, aujourd'hui même. C'est seulement parce que Jésus est si haut au-dessus de nous qu'il y a une unité dans Jésus. Aucun homme, aucun parti ne peut dire, il est à moi. On ne peut pas non plus faire l'unité en sorte que tous pensent, sentent et croient exactement la même chose. Nous devenons unis parce que nous sommes soumis à un seul maître. Ce maître unique appartient à tous. Il appartient aussi bien aux classes d'en bas qu'aux classes privilégiées, aussi bien à toutes les professions, à toutes les races, et ainsi, il est le plus proche de chacun en particulier. Un peuple est uni parce qu'il reconnaît un maître qui gouverne et une loi. Tous ne peuvent pas avoir les mêmes pensées exactement de la même chose parce que tous n'ont pas le même cerveau et tous n'ont pas le même parcours dans leur vie et les mêmes sentiments. De même, nous ne pouvons devenir un peuple de Dieu qu'à la condition que tous reconnaissent un seul chef qui est bien haut, bien au-dessus de nous tous. En terminant cette étude, n'oublions jamais que ce n'est que dans une adhésion totale à Jésus-Christ, en tout ce qu'il est, dans une soumission totale à ce Jésus qui enseigne l'amour de Dieu sur terre et le représente en personne, que nous pouvons être des collaborateurs. Nous sommes ses serviteurs et ses servantes, mais Jésus seul est l'exécuteur suprême. Amen. Chers amis, nous allons terminer par la prière. J'aimerais que nous puissions prier ensemble comme si c'était la première prière de notre vie. Ô Seigneur Dieu, tu es mon tout, ma vie qui vient de toi. Tu es la vie de ma vie. Tu es l'esprit de mon esprit. Use de miséricorde envers moi et remplis-moi de ton Saint-Esprit d'amour afin qu'il n'y ait plus de place en mon cœur pour quoi que ce soit d'autre. Ce ne sont pas des grâces que je réclame, mais toi-même, car tu es la source de toute bénédiction. Je ne demande pas la gloire du monde, ni même le ciel, mais j'ai besoin de toi, car là où tu es, là est le ciel. En toi seul, mon cœur trouve satisfaction et plénitude. Tes multiples bontés font déborder mon cœur de gratitude et de louange. Mais la louange de mes lèvres, elle ne suffit pas, tant que je ne pourrai te prouver par mes actes, non pas seulement par mes lèvres, que ma vie est entièrement à ton service. Louange à toi de ce que tu m'as fait passer de la mort à la vie, tout indigne que j'étais sur tout moi. Et tu m'as fait jouir de ta communion et de ton grand amour. Ôte de mon cœur tout ce qui pourrait s'opposer à toi, habite et règne en moi. Seigneur, être assis à tes pieds est infiniment meilleur que d'être assis sur le trône le plus élevé de la terre, même pas à la place d'un Donald Trump qui sera un président
de la grande puissance de notre planète. Car cela signifie habiter toujours avec toi. Nous voulons être avec toi seul. Nous voulons être dans ton royaume éternel. Et maintenant, je m'offre à toi comme un vivant sacrifice. Oui, accepte-moi dans ta miséricorde et emploie-moi à ton service là où tu veux et comme tu veux, car tu es à moi et je suis maintenant à toi. Tu as pris cette poignée de poussière que je représente. Tu me créas à ton image et tu m'as accordé le droit de devenir ton fils. Honneur donc, louange et gloire te soient données d'éternité en éternité. Amen. Chers amis, juste encore un mot. Surtout n'attendez pas d'avoir mon âge, 90 ans, 90 ans, pour enfin vous décider. Un jeune homme se rendait au rendez-vous de sa fiancée en moto. C'était en automne, il pleuvait très fort. Or, dans un contour très serré, probablement paraît-il à trop grande vitesse, sa moto a dérapé et il est mort. Trop tard. Je répète, trop tard. Trop tard pour lui de prendre une décision. J'espère que par ce témoignage authentique, vous avez tout compris. Que le Seigneur vous bénisse et sachez que je vous aime. Je vous embrasse tous fraternellement de tout mon cœur. Et à demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Au revoir.